Donc, parler de dragons. Dans la mythologie classique occidentale, le dragon, venant du serpent, symbolise le mal, essentiellement. Tandis que dans les traditions asiatiques, c'est plutôt un symbole de bonté, de sagesse, de connaissance. Et dans les textes occidentaux jusqu'au 20, et encore au XXe siècle, on reste dans la tradition chrétienne où tuer le dragon apporte le pouvoir, la royauté, la main de la princesse, la richesse, ce genre de choses. Mais heureusement, il existe aussi au 20e, enfin, au 19e, on arrive au dragon symbolique et ésotérique qui est maître de connaissances occultes et mystérieux. Et à la deuxième moitié du XXe siècle, on arrive à des auteurs qu'on peut dire révisionnistes, qui font de leurs dragons des compagnons, des montures, des gardiens ou bien les maîtres des hommes, sans aucune référence au mal. Par exemple, un auteur comme. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Gordon Dixon a écrit une série de romans qui s'appelle Le Dragon et le Georges, où les dragons élèvent des Georges pour leur servir de compagnons et les servir. Il y a des dragons de science-fiction, comme Rosée de Feu de Xavier Méméjean ou La Geste des Dragons de Pern d'Anne McCaffrey. Il y a énormément de dragons de fantasy, comme ceux de Pierre Pével, d'Elisabeth von Harburg, d'Ange, de Tolkien, de Pratchett, de Robin Hobb, de George R.R. Martin, autant d'auteurs, autant de dragons. Et pour parler de ces incarnations, nous avons réuni des spécialistes. Philippe-Henri Turin, dont l'exposition a lieu dans la salle jeunesse ici à côté, qui est un homme, qui est notre homme d'image, qui crée des dragons de papier, de numérique, des dragons illustrant des histoires ou ouvrant l'imagination. Jean-Luc Bizien, touche-à-tout des littératures de genre, qui a fait aussi bien du fantastique, de l'héroïque fantasy, du thriller, du polar, sans jamais oublier les dragons. Même dans le thriller, il y a des dragons. Pierre Pével, maître S-Dragon, qui mélange le fantastique, le merveilleux, l'historique, le KPDP, avec le même brio, de Vlistat aux Lames du Cardinal, au Haut Royaume. Ces dragons changent, mais sont toujours présents, ont toujours une forte importance dans son travail. Et Ange, enfin la moitié d'Ange.
La bonne moitié.
Scénariste, écrivain, créateur de jeux. Et entre autres, l'un des auteurs de La Geste des Chevaliers Dragons avec sa complice. Et l'autre moitié, donc. Et donc, lui aussi multiplie les dragons. Alors, je vais commencer par vous demander chacun de me présenter vos dragons. Comment vous voyez vos dragons?
C'est ça. Nous, c'est du chiffre d'affaires.
Alors, ça, je pense que ça va être un peu différent des trois autres parce que moi, ça n'est pas du texte. Et que finalement, la représentation du dragon telle qu'on la voit est vraiment imposée par le monde anglo-saxon actuellement, donc qui date de la période des pré-raphaélites. Donc en plus de ça, c'est très matiné avec des recherches sur les dinosaures. Et on a des dragons très, au niveau visuel, souvent sont pas très diversifiés, voilà, on va dire. Moi, je suis allé chercher vraiment les dragons dans les représentations traditionnelles parce que ça n'était pas du tout mon univers. Je pense que là, il doit y avoir des personnes dont l'univers du dragon est beaucoup plus ancien. Moi, l'univers du dragon, enfin, mon rapport avec le dragon date de Sylvie Chose, donc de 2007, 2006, ouais. J'en avais jamais dessiné avant. Je ne m'y intéressais absolument pas. Et on va dire, depuis, je fais plus que ça. Mais voilà le rapport que je peux avoir avec le dragon est plutôt raccroché à aux légendes du monde entier, que ce soit les aborigènes, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique aussi. Donc une vision très particulière. C'est pour ça que certains trouvent que mes dessins ne sont pas assez heroic fantasy. mais ça n'est pas mon, ça n'est pas mon truc du tout, du tout, du tout. Même à regarder, ça n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire.
Oui, d'ailleurs, il m'a semblé en voyant certaines de tes illustrations que il y a parfois des influences plus asiatiques qu'occidentales dans la forme.
Oui, asiatique, et puis du voilà. Moyen Âge. Beaucoup de choses qui sortent du Moyen Âge parce que les gens avaient tellement peur de tout au Moyen Âge et au 13e, 14e, période de Jérôme Bosch ou tout ça, que ayant peur de tout, ils avaient une imagination absolument débordante. Voilà. De Peter Bruegel, tous ces artistes-là. Donc bon, Mondragon se raccroche à ça.
Les programmes de la télé à l'époque n'étaient pas terribles, donc. Sinon.
L'image de synthèse a vachement.
Ouais, ça a quand même progressé. Voilà.
C'était pixelisé.
Ouais.
Moi j'en ai plein des dragons, j'en ai plein de sortes, ça dépend de la série. Dans Wildstadt, il y en a un, mais c'est un dragon primitif finalement, dont on ne comprend pas les motivations, à supposer même qu'il en est vraiment. Il n'est même pas certain que ce soit une créature intelligente. Dans les enchantements d'Ambremer, c'est des créatures finalement plutôt positives, en tout cas c'est une race intelligente. Et qui est capable, grâce à la magie, de changer de forme et de prendre apparence humaine. Dans les Lames du Cardinal, il y a un peu des deux. Il y a des méchants dragons, il y a des gentils dragons. Enfin, c'est une race intelligente. Et en fait, l'idée des lames, c'est que il y a la race humaine et il y a la race des dragons. Et les deux se disputent un même écosystème qui est la Terre. Et ça a plutôt tourné mal pour les dragons. Et donc, parmi eux, dans cette race, il y en a, c'est exactement comme dans la race humaine. Il y en a des bons, des gentils, des égoïstes, des veules, des cruels. Et dans Au Royaume, il y a encore des dragons, mais alors là, ils sont d'une nature un peu différente. Ils sont quasiment d'une nature divine. En tout cas, ils ont régné sur le monde. C'était des créatures qui sont maintenant déchues, mais qui avant étaient vraiment des créatures de nature divine et qui sont encore l'objet d'un culte au moment où se déroule le roman. Donc voilà, il y a plein de dragons et chez moi j'essaye de les aborder sous des tas d'angles différents. Voilà, j'en mets partout.
Jean-Luc ?
Oui. Moi j'ai eu la chance de naître au Cambodge en fait avec du sang asiatique. J'ai une arrière-grand-mère vietnamienne. Je vais m'allonger là sur un divan. En fait, du coup, j'ai baigné effectivement dans cette vision du dragon plutôt positive. Et puis, j'ai une autre grand-mère, alors la bretonne pure porc. Hein, donc là, le dragon, c'était plutôt en sauce via Saint-Michel. Quoi. Et donc, ça a toujours été un peu conflictuel. En revanche, j'ai eu un parcours un peu, tu l'as dit, à défaut de faire n'importe quoi, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et je suis passé par la case jeu de rôle, donc il y a eu donjon et dragon, c'est pas. Donc là, on nous imposait une certaine vision de la bestiole, et puis petit à petit, à l'époque, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Gérard, on a beaucoup travaillé sur plein de trucs, où effectivement, on mettait du dragon partout, et le jeu, effectivement, là, je crois que c'est là que ça a commencé à sévèrement révisionner. On s'est mis justement à pervertir le truc, et à s'amuser avec les codes.
Souviens-toi que dans Donjons et Dragons, il y a des dragons bons, enfin, il y a les alignements, ils sont tous représentés chez les dragons.
Mais ils sont...
Mais c'est souvent la créature à vaincre dans le cadre de l'aventure.
Tu vois, c'est le symbole de la puissance.
Mais il y en avait.
D'être celui du mal. Ou... Ouais. Moi, j'avais envie de... Parce que j'avais grandi comme ça, j'en ai mis effectivement dans mes bouquins, et j'essaie de les considérer comme des... Pas des modèles, mais y a même le personnage d'un de mes romans est un dragon. C'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un dragon qui peut prendre la forme humaine et qui se balade au milieu de nous et qui donc regarde les humains avec une espèce de détachement comme ça, quasiment un entomologiste. Quoi. Il surveille des insectes, il regarde et il s'amuse à. Et en même temps, il a besoin d'eux. Il y a un échange permanent. Moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Et puis, comme tu l'as dit, j'étais assez fier de moi. J'ai réussi à le coller dans un thriller. Contemporain, ultra réaliste, mais j'ai triché, je suis retourné chez les Asiatiques, ça se passe en Corée du Nord, où effectivement ils ont toujours cette obsession du dragon. Juste parenthèse, sur l'Asie, il est clair en Asie que le dragon existe, contrairement à chez nous, où tout ça est une aimable plaisanterie. Je vous invite à regarder la carte des chemins de fer en Asie. Il y a quand même une ligne qui va d'est en ouest et qui, à un moment donné, fait une boucle comme ça et repart. Donc, je vous rassure tout de suite, les plus jeunes d'entre nous, c'est pas parce que le gars avait son doigt sur la règle quand il a tracé.
C'est juste parce que dans cette région-là, les paysans, quand ils ont su qu'on allait mettre une ligne de train, n'ont pas fait une révolution, parce qu'en Chine, c'est mal. On l'a fait une fois il y a longtemps et on a payé. Ils ont juste fait remarquer aux autorités que ce n'était pas possible parce que sous leur terre dormait un dragon et que les travaux allaient le réveiller et que là, ils n'auraient pas les moyens de l'arrêter. Donc, gentiment, on a détourné la ligne. Donc, le dragon dort toujours peinard dans ce coin-là. Et c'est... voilà.
Mais c'est quelque chose qui est assez courant.
Mais en plus, c'est vrai. C'est nous qui ne sommes pas au courant.
Par exemple, le feng shui, quand on vérifie comment on doit placer votre lit, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas un dragon qui dort en dessous. Mais il y a aussi dans les premières légendes arthuriennes dès le Xe siècle, le combat du dragon blanc et du dragon rouge, symbolisant l'invasion les Britons et les Saxons, par exemple. Et toi, mon ange ?
Moi, c'est comme Pierre. On en met partout, mais tellement partout qu'en fait, en réfléchissant, là, on en a encore plus partout que je pensais. Alors, des dragons, il y a la geste des chevaliers de dragons, donc il y a à peu près un dragon partout, voire plus. Mais pour nous, c'est vraiment, dans ce cas-là, vraiment un adversaire. Ça arrive dans le monde, ça met un peu le dawa, il faut s'en débarrasser le plus vite possible, parce que sinon, le mal s'étend. Donc, quand le mal s'étend, il vaut mieux se débarrasser du dragon le plus vite possible. Dans le Collège Invisible, c'est un petit dragon domestique, car on a tous... Tu sors. On a tous voulu avoir un dragon domestique.
Hein, c'est plus fort.
Forcément. On a une série qui s'appelle Marie et les dragons, mais il n'y a même pas de dragon dedans, mais bon, il y en a une
dans le titre. Bien joué, ça.
Okay. Effectivement, notre premier roman, c'était Skell, c'était quand même une histoire de dragon. Et là, j'en ai oublié sûrement 17. On a réussi à en mettre dans Innominé Satanis, qui était un jeu sur les anges et les dragons. Enfin, les anges et les démons. Et tac,
oui, oui.
Le scénario s'appelait Un dragon, c'est vachement porteur. Voilà, donc non, je pense que c'est effectivement dans notre ADN de créa, c'est bien ancré, quoi.
Mais pourquoi tous ces dragons ?
Mais parce que. Merci.
Mais parce que ça vend !
Et puis surtout. Parce que ça vend, nous dit-il, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, un truc, temps mort, sur les éditeurs, c'est extraordinaire. Il y a, quand on sort du jeu de rôle et qu'on passe à l'écriture, on est quelques-uns à dire aux éditeurs, ouais, je ferais bien un truc sur les dragons. Tout le monde était gentil, c'est vieux, c'est daté et compagnie. Le problème, c'est que un bouquin arrive, puis un deuxième, un troisième, et dis donc, ça fait carton sur carton, parce que les gens ont envie de lire ce type de fantastique ou de merveilleux là. Et une fois que tu as mis le doigt dans le cycle infernal des dragons, les éditeurs t'appellent. Tu vois, par exemple, j'ai pondu ça il y a quelques années. Je pensais en avoir terminé. En 2000, j'ai fait un roman pour les ados chez Bayard. Trouvez l'erreur. Le truc, il y a des dragons chez Bayard. Bref, c'était très compliqué de l'imposer déjà, mais personne n'y croyait, ça cartonne. Et pendant 5 ans d'affilée, tous les éditeurs jeunesse m'ont dit « Vous n'auriez pas un truc sur les dragons ?» Obligé de leur expliquer que j'en avais pas un dans mon grenier, que j'avais pas que ça à foutre, et je voulais changer. Et je pense qu'on m'a oublié. Et 10 ans après, ils m'appellent en me disant « Oui, on est tombé sur un bouquin, vous êtes un spécialiste. » Il a fallu que je révise. Donc j'ai pompé sur tous les petits camarades pour leur expliquer, parce que les miens étaient trop... Tu vois, off, j'ai pas parlé des miens, je parlais de ceux des autres, tu vois. Voilà, il y a ça aussi, il y a cette réalité-là, c'est que Gérard avait fait un truc extraordinaire, effectivement, je trouvais que le titre était merveilleux, un dragon c'est porteur, n'empêche que un c'est toujours porteur, puis deux, je vais pas non plus cracher dans la soupe, j'ai une vraie jubilation à bosser là-dessus, ouais. Parce que justement c'est tellement tarte à la crème que, ah oui, tout le monde a pondu 12 000 dragons, enfin, on n'en peut plus, toi t'as dû, tu vois, pour imposer une espèce de vision et tout, faire ton truc. Ce que je trouve jouissif, c'est justement de s'approprier un truc ultra connu et d'essayer d'en faire un à sa propre musique. Tu vois, j'avais eu un émerveillement. Je suis fan de Brussolo, je m'en cache pas. Mais son dragon du roi squelette m'avait juste émerveillé. Je trouvais que l'idée était géniale. Il avait pris un truc médiéval fantastique et il en faisait quelque chose de complètement fou. Il avait même inventé un monde où la terre elle-même était un œuf de dragon, que donc tous ses habitants passaient leur temps à essayer de calmer le bestiau pour pas qu'il sorte de l'œuf, sinon il y avait souci.
Comme dans le jeu de rôle Rêve de dragon, ouais. Où l'on joue, ouais. On fait partie
du. Nous sommes le rêve du dragon, ouais, c'est ça.
Le monde est rêvé par un dragon.
Et il ne faut surtout pas le réveiller.
Parce que s'il se réveille, il va passer un autre rêve, un cauchemar. Donc, si on veut juste continuer à exister, il faut dodo l'enfant d'eau. Ouais. Sympa comme principe.
Et toi ? Pourquoi tous ces dragons?
Chute d'affaires. Non, je te dis.
Mais ça en jette un dragon. Ça en jette.
Puis c'est grand, c'est méchant.
Ça peut l'être ou pas.
C'est l'adversaire ultime. On peut pas. On croit. Je pense que dans nos littératures, on croit plus au dragon qu'au diable. Donc c'est l'équivalent. C'est l'équivalent rêvé. Donc,
c'est le boss de fin de niveau.
C'est ça. Ouais.
Et toi?
Pourquoi
tous ces dragons?
Ah ben c'est ce que j'ai expliqué. C'est terrifiant. Je me sens totalement à part parce que c'était vraiment une obligation. Donc
ce n'était pas du tout mon univers.
Mais même si on regarde, au niveau de la littérature, on trouve énormément de textes. Enfin, on voit bien tout ce qu'ils ont cité. Au niveau de l'imaginaire pictural, c'est relativement pauvre.
Oui.
Et si on se dit c'est très influencé par le cinéma hollywoodien, eh ben cherchons les films, il n'y en a pas tant que ça. Parce que ça demande des effets, des moyens, voilà. Et souvent quand c'est fait, c'est assez misérabiliste. Donc à part Cœur de Dragon qui arrive à peu près à s'en sortir, mais qui commence à être vieux, mais quand même, il y a une poésie dedans qui fait que la chose passe un peu.
Et
le dernier, qui était fait par DreamWorks, qui s'appelle Dragon, qui était basé sur les livres, là, il était vraiment bien fait. Mais sorti de ces deux-là, cherchons.
Je le trouve sévère, Règne de Feu, c'est pas mal. Si, les dragons, ils ont...
Faut passer sur l'histoire, quoi.
Non, mais on parle que du dragon. Les dragons dans Règne de Feu, ils en jettent.
Oui, mais voilà.
Et puis, il y a celui de La Belle au Bois Dormant.
Oui, mais voilà, c'est le dessin animé. C'est-à-dire, pour le coup, le dragon passe bien quand c'est du dessin animé. Quand c'est en film, dans ce coup, c'est pas extraordinaire. Et je trouve que, en fait, ce qui est fabuleux dans ce qu'ils font eux, c'est ce que je dis tout le temps par rapport à Sylvie, c'est la puissance de l'imaginaire des gens, des lecteurs. C'est-à-dire, là, on l'a en mots, et chacun le lit et voit ce qu'il veut. Et imagine ce qu'il veut. Moi, je le fais en dessin et je me trouve avec l'obligation d'imposer aux gens ma vision à moi. Et d'un seul coup, je le vois avec les enfants, ils me disent, quand ils regardent mes dessins, ils me disent « Ah ouais, mais c'est pas assez !» Voilà. Alors, j'en ai fait deux, trois pour une galerie parisienne qui s'appelle Daniel Maguienne. Quand il a vu mes dessins, il m'a dit « Oui, mais c'est un peu trop coloré, un peu trop ci, un peu trop là. » Bon, alors, je lui ai dit « Si tu veux, je peux te faire des choses très heroic fantasy. » Et il m'a dit, ouais, mais est-ce que tu serais capable de faire des choses qui soient moins colorées, qui aient moins de couleurs partout? Je lui ai dit, oui, tu veux un dessin monochrome? Je lui ai dit, c'est sûr que c'est vachement plus dur de faire un dessin monochrome qu'avec 36 couleurs. Donc je lui ai fait ça, et les trois dessins, il les a vendus, dont un à Michel-Édouard Leclerc. Donc c'est rigolo, quand il m'a dit ça, il m'a dit, tiens, il a acheté ton grand truc qui mesure 1m50.
Leclerc est daltonien, on ne voit pas les couleurs, donc pour lui ça n'a pas de problème.
Donc le dessin était tout marron verdâtre. Moi ça ne m'a pas demandé, le dessin m'a demandé plus de travail, mais c'est vrai que c'était un dessin très heroic fantasy. Voilà, donc c'est une chose que je peux faire, mais ce n'est pas une chose que j'aime particulièrement. C'est pour ça que je parlais de la vision moyenâgeuse, mais je suis rentré par là grâce à Sylvie. Donc je me sens vraiment très différent. Je les écoute parler et j'ai l'impression qu'ils ont joué à des jeux de rôle quand ils avaient 15 ans.
Ah non,
20 ans. Non, ah non, d'accord. Vous étiez déjà vieux.
Ouais, on était déjà vieux. Ce qui nous a permis.
On a commencé vieux, c'est comme ça qu'on dure, en fait.
Ouais. Oui, il ne faut pas croire. Alors, on fait la phrase.
Mais c'est une littérature. Moi, là, simplement, en tant que lecteur, j'adore ça. C'est vrai que d'un seul coup, il y a quelque chose d'assez. D'assez fabuleux qui rentre. C'est comme une magie, effectivement. D'un seul coup, dans l'histoire, on se dit tout est possible. Il est là, prof, tout est possible. Allez, l'histoire va aller où? Et souvent, quand je lis les bouquins, les romans, je me dis elle va jamais aussi loin que je voudrais. On en voudrait toujours plus. Voilà.
Et toi, Pierre, pourquoi tu mets des dragons partout?
Ah, moi, je trouve ça. Je n'ai pas d'autre idée. Finalement, je trouve que c'est juste parce que je trouve que c'est une bonne idée. C'est le dragon, c'est ça en jette. C'est visuellement, ça permet des scènes spectaculaires de qualité. Moi, un gars tout seul avec une épée face à un dragon qui déploie ses ailes, ça continue à me faire triper. J'ai 12 ans quand je pense à ça. C'est du pur fun, c'est sexy, ça en jette, c'est non, il y a vraiment le dragon.
Voilà. Alors, il dit un type tout seul avec une épée face à un dragon, ça en jette. Ça en jette quand on le lit et qu'on se l'imagine dans la tête, c'est comme la saga de viking sur le type qui, l'espèce de monstre qui sortait des marais, qui mangeait les vikings. Comment il s'appelle? Il est tué par le roi, par Beowulf. Hein? Il est tué par Beowulf.
Shrek.
Oui, j'attends. Non.
Il mange pas les.
Mais non, il y a. Beowulf lui arrache le petit doigt. il tue donc le fils. et après, il va tuer Grindel.
Oui,
voilà.
Grindel.
C'est le personnage de Grindel. Bon,
c'est
eh bien.
Vrai, il y a le truc d'animation.
Ce qu'il vient de dire là est fabuleux en texte. Mais si vous le faites en dessin. Même si c'est Jono, c'est moins fabuleux. Je peux vous dire à quel point c'est Jono a illustré donc l'histoire de Beowulf avec le passage avec Grindel, où il prend Grindel et il tient dans la saga, il tient le petit doigt de Grindel et il doit lui arracher pour que son sang coule et qu'il meure. Bah, à dire comme ça, c'est impeccable. Mais même Jono, qui fait des dessins fabuleux, bah, il a fait un Beowulf qui tient le petit doigt de Grindel et c'est ridicule. Parce qu'il y a un tout petit bonhomme qui tient un gros doigt et ça marche pas. En dessin, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et un petit bonhomme avec une épée face à un dragon énorme, à moins que la peinture fasse 8 mètres de long, sur un truc comme ça, c'est pas aussi épique. Non, sans rire, c'est pas aussi épique que vous, quand vous écrivez, qu'il est tout seul avec une énorme épée, qu'il faudrait les muses de Schwarzenegger pour la tenir. Ça a tout de suite quelque chose de plus fantastique.
C'est l'ennemi, c'est la magie du dessin. C'est-à-dire que tu, quand tu dis que tu imposes. Ouais, enfin, tu invites les gens à rentrer dans ta vision de la chose. Et ça marche ou pas, effectivement. Ouais. L'avantage qu'on a en étant auteur et pas illustrateur, j'ai fait les deux, en fait, je suis un dessinateur frustré, moi. Et je me suis aperçu que la force du texte, c'était que tu instillais une idée et tu avais autant de bouquins qu'il y avait de lecteurs, en fait, puisque chacun, en fonction de son vécu, projetait ces trucs-là. Toujours faire confiance au lecteur.
Soit quoi ça me faisait penser, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être frustré parce que du coup votre imaginaire est déjà bien plus poussé, mais finalement, vous proposez le même dessin ou le même texte à 10 personnes différentes et ça va aller dans 100 directions différentes. Et c'est ça qui est fantastique parce qu'on prend la personne là où elle est, on essaye de l'emmener plus loin à la rigueur, mais le plus loin, c'est pas le même chez les autres. Le plus loin, il est par là, parfois par là. Et,
c'est toujours un miroir
après,
à double face.
Je ne sais pas comment les autres regardent ça, je ne peux pas le savoir.
C'est toujours un miroir à double face. L'auteur, qu'il soit illustrateur, écrivain ou tout ce qu'on veut, met quelque chose de lui, de son imaginaire dans sa création. Ce que le spectateur ou le lecteur voit, c'est un morceau de lui-même.
Oui,
donc il a sa propre interprétation, même si toi tu crois que ça reste uniquement ta vision, il va peut-être te voir de manière différente.
Alors pour le coup, il est un illustrateur frustré, moi je suis un auteur frustré, et en fait, en tant qu'auteur frustré, effectivement, je trouve que la force des mots est absolument incomparable. Voilà. Ce qui est bizarre pour un illustrateur de dire ça, et pour quelqu'un qui... Il passe son temps à dessiner.
Bien. Non, ça sera bien maintenant les illustrations de Bilbo avec Smaug sur son Tador. C'est dessiné à 2 balles, ça marche tout seul. Quoi.
Tu prends les couvertures de livres, les livres que vous faites, elles ont beau être des fois sublimes.
Je bec le diffère parce que franchement, la couverture de Bilbo, franchement, n'importe qui ici peut la dessiner ou la redessiner. C'est un dragon mal dessiné sur un tas d'or mal dessiné avec un Bilbo comme ça et je ne les changerai pas quoi.
Alors, mais je préfère le Bilbo que j'ai dans la tête que celui qui est au Cinoche parce que c'est le Dr Watson.
Ça, c'est clair.
Ça m'énerve.
Non. Mais sinon, quand on voit l'illustration de Nicolas Fructus pour le Bélial, pour le dragon créole de Julius Shepard, c'est une pure merveille d'illustration. C'est un dragon géant sur lequel les hommes vivent. Et ce qu'il en a fait, quelque chose d'extraordinaire.
C'est costaud. C'est solide.
Moi, j'ai l'impression que vous avez tous des dragons méchants.
Non, bien sûr que non.
Moi, tu vois, ça y est, elle commence à être désagréable.
Putain, on avait dit on se casse.
Mais non, ils sont sains.
Alors, vous avez des dragons gentils, des dragons méchants, initiateurs, trésors, gardiens de trésors, sagesse, connaissance. Vous préférez lesquels?
Dans le Collège Invisible, mon dragon, il s'appelle Dragonet. Comment tu veux que ce soit méchant? il est grand comme ça, il est mauve.
C'est Dragonet l'empaleur, non?
Ouais, c'est un peu... Non. Mais donc, on préfère lesquels? On préfère tous.
Dragonèche.
Les figurants qui sont gentils, méchants. Les héros, les adversaires, tout ça.
Dans deux de mes bouquins, moi je les, enfin dans deux de mes séries, c'est une, moi les dragons c'est une race intelligente, comme au même titre que
le chien, que
l'humain. Enfin, mais en fait ils sont plus intelligents que les humains. Ils sont souvent plus puissants. Certains sont donc plus sages et d'autres pas. Mais donc il y a tout le spectre possible. Il peut y avoir des dragons positifs, enfin qui sont des alliés ou des adversaires ou. Non, j'ai là pour le coup dans Wildstatt, non, c'est vraiment un dragon très primitif et qui
c'est un dragon protecteur.
Oui, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, c'est une force de la nature qui protège la ville, le Wildstatt, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, je crois que je ne réponds pas à la question. Je ne sais plus. Mais dans les autres, moi, ce qui m'intéressait, c'était de la considérer comme une autre race. Et ce qui m'intéressait, c'était la confrontation entre race humaine et une race autre qui... Après tout, aurait pu être une race extraterrestre, on aurait développé à peu près les mêmes thématiques. Mais ça m'intéressait. Quoi. Et puis d'avoir évité justement une sorte de manichéisme, d'avoir des héros humains contre des dragons méchants, maléfiques. Et donc pour éviter ça, en mettant en scène des dragons qui sont très différents dans leur mentalité, leurs ambitions, leur passé. Leur philosophie et leur morale. C'est donc dans les lames ou dans les enchantements d'Andromère, encore plus, il y a vraiment des dragons extrêmement plutôt sympas.
Parce que juste au niveau du texte là et des auteurs, comme je ne connais pas forcément trop ça, c'est à partir de quand qu'il a commencé à y avoir comme ça cette utilisation du personnage? Parce que finalement, ça remonte pas, c'est pas si vieux que ça.
Les années 60.
On l'utilise, c'est les années 60 où on a commencé vraiment à avoir des textes. Parce qu'avant, c'était toujours les légendes Sainte-Marthe, enfin toutes ces choses-là.
En 68, c'est...
Je parle pas de l'Asie là, où c'est très, très différent.
En 68, c'est le début de la balade de Perne d'Anne McCaffrey. Qui fait de ces dragons des êtres intelligents qui sont en fait des lézards génétiquement modifiés. Ça, on le découvre beaucoup plus tard. Et qui ont des contacts très proches, télépathiques et autres, avec leur chevalier. Mais c'est à peu près à cette époque-là où on commence à avoir des textes où on change le dragon, où le dragon n'est plus... Le symbole du mal qu'il faut absolument oxyre pour avoir richesse, princesse et pouvoir.
Et puis c'est ce que je pense que dans les textes médiévaux, dans les textes fondateurs du mythe, en Occident en tout cas, c'est pas les dragons, c'est le dragon, ouais. Comme le diable. Il y en a un, c'est pas d'où il sort, mais il est là.
Oui, puis en plus, c'est le truc en plus, il permet de mettre en valeur le sorotone.
Ça vient de me frapper là. Ce dont on parle, nous, depuis tout à l'heure, c'est les dragons. C'est-à-dire qu'on en a fait une espèce, en fait. Il y en a partout, il y en a tous les styles, et effectivement, ils sont aussi variés que l'espèce humaine. Quoi, tu vois, c'est... Du coup, ça te permet de plaquer beaucoup plus de choses. Et ce que dit Pierre quand il dit ça en jet, je crois aussi, c'est qu'avec le dragon, tout est permis. C'est t'as beau appuyer sur la pédale, il y en a toujours sous le capot. Donc ouais. Tu peux
tout
y aller
à
fond.
Soit il est tellement gentil que même le plus cool des babacools, tu vois, et c'est Hitler à côté. Soit c'est un fou furieux, soit il est ultra puissant, soit
point Godwin.
Hein?
Tu as gagné le point Godwin, c'est pas mal.
Hein. C'était Hitler. Ben voilà. D'un autre côté, on a fini. Hein.
Voilà, le prochain. Non, parce que je te rappelle qu'il y a 8 ans, après, il faut essayer de glisser Benito dans le. D'ailleurs, c'est moi qui viens de le faire.
Voilà.
Non, on a des jeux simples. Ce sont les noms de mes deux poules, Adolphe et Benito.
Non, mais c'est justement la différence.
Tu peux y aller à fond et en rajouter des caisses sans aucun complexe. Alors, ouais. Si tu fais ça avec des humains, on dit non, là, c'est too much. Ouais. Avec les dragons, c'est pas grave.
Et en tant qu'auteur, est-ce que vos ouvrages qui parlent sur les dragons arrivent à passer en Asie? Parce que moi, en tant que dessinateur, ça passe pas. C'est-à-dire, quand on est dessinateur, on a eu ce problème-là, nous, avec les bouquins. Ça fait tellement partie de leur âme. Qu'à partir du moment où vous êtes occidental, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai eu un éditeur chinois qui s'est penché sur mes dessins de Temps de Dragon. Donc, ils étaient plusieurs. Puis, il y avait un petit vieux derrière le groupe. Donc, ils étaient une cinquantaine. Et quand le groupe est parti, le petit vieux est resté. Et en fait, c'était le grand patron. Et on me l'a dit après chez Belin. Et il s'est penché, il m'a fait tout japonaise. Et puis il est parti. Voilà. Et tout était dit là. C'est clair, net, précis. C'est-à-dire, je suis occidental, j'ai pas le droit d'y toucher. Et au niveau des textes, est-ce que ça fait pareil ou
Moi, je suis pas traduit plus à l'aise que la Pologne, donc je peux pas te dire.
Mais alors ça nous ramène au sujet de tout.
Pour l'édition, si vous voulez, il y a énormément. La Corée prend énormément de bouquins. Alors je ne sais pas si c'est dans les romans, c'est pareil. Mais en Genève, on prend énormément de bouquins.
Oui.
Et dès que ça touche les dragons, on passe par même pas encore.
En Corée.
Mais c'est surtout que le dragon occidental est un dragon. Le dragon. Alors qu'il y a des dragons asiatiques. Il y a des dragons d'eau, il y a des dragons d'air, il y a des dragons de feu. Il y a vraiment plusieurs sortes de dragons avec plusieurs physionomies et plusieurs caractères.
Mais oui, c'est une manière, enfin moi là je parle en tant que dessinateur, c'est une certaine manière de les représenter et une certaine manière de les faire, le pinceau qui coule sur le papier, tout ça, c'est vraiment très très particulier et on ne peut pas, quoi, on ne peut pas y toucher, on n'a pas le droit d'y représenter.
En fait, je pense qu'en Occident et même médiéval, il y a en effet il y a le dragon, la figure du dragon, on lui mettrait assez naturellement une majuscule, et c'est une des incarnations du diable, ou c'est la bête, etc. Mais il y a également les dragons en tant que race. J'en veux pour preuve que dans les bestiaires, la race, enfin le dragon apparaît, quoi. Au même titre que des animaux. Que le cheval. Et le chat et le chien. Donc, on croyait au moins à l'existence de cet animal.
Même avant, à Pline l'Ancien.
Oui, oui, oui. Et donc, on croyait à leur existence. Éventuellement, on pouvait croire que la race avait disparu, mais qu'ils avaient existé et que ça faisait. Mais ça faisait guère de doute. Il y a vraiment les deux. Il y a la figure divine, diabolique, au sens propre du dragon, et puis il y a la race, mais qui reste quand même une race de prédateurs et de créatures plutôt à éliminer, parce qu'il représente un danger. Mais finalement, guère plus que le lion d'Europe qu'on a massacré allègrement aussi, parce que c'était un prédateur. Quoi. Donc, très tôt, en fait, il y a ces deux figures-là, je pense.
Et d'ailleurs, il y a des survivances de dragons comme ça aujourd'hui. Il y a d'un côté les gens qui, quand ils voient des espèces de lumière dans le ciel, croient aux ovnis. Mais dans d'autres pays, ces lumières dans le ciel, c'est le passage d'un dragon. Et c'est vraiment des cultures différentes qui voient les phénomènes lumineux de manière différente. Mais sinon, quelles sont vos sources? Où est-ce que vous allez les chercher, vos dragons? Vous les inventez de toutes parts?
Dans le manuel du joueur.
Entièrement? Ou vous avez dragon cherché TSR. Dans les...
C'est ça, c'est le dragon TSR.
C'est le dragon TSR. Ouais. Moi, je pioche dans l'imaginaire collectif que je partage.
Alors, moi, j'ai un service d'idées à Chartres. J'ai un abonnement et en fait, il m'envoie des idées.
Ouais. C'est un lutin qui me dit tout dans ma tête, mais parallèlement, je voulais tout faire traduire.
Voilà.
Non, sans rire, c'est vraiment... Alors là, vraiment, j'ai jamais fait de recherche sur le dragon.
Non.
Guerre. Un petit peu pour Willstatt, parce que je voulais essayer de mettre en scène un dragon en...
Qui parle allemand.
Je l'ai appelé Adolphe,
d'ailleurs. Hein, deux, hein.
Alors ça, celui-là, on l'a pas vu. Non, joli coup.
J'ai... Non, l'idée dans Willstatt, je voulais mettre en scène une... Je voulais faire une sorte de magie et de fantasy qui soit, entre guillemets, historique. C'est-à-dire, je voulais mettre en scène la magie ou les créatures en lesquelles les gens de l'époque croyaient volontiers. Donc, dans ce cas-là, je me suis intéressé à la figure du dragon, donc aussi bien dans l'Apocalypse que justement dans les bestiaires. J'ai eu l'occasion d'en feuilleter, enfin, des facsimilés, où il y avait vraiment des ossements de dragons qui avaient été retrouvés, qui étaient dessinés. C'était assez marrant de voir ça, quoi. Donc là, j'ai fait quelques recherches. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment... C'est l'imaginaire collectif que je partage et dans lequel je puise. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, la force, d'une certaine manière, de la figure du dragon. C'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Et tout le monde voit tout de suite de quoi on parle. Et éventuellement, ensuite, on est obligé d'expliquer...
C'est un archétype qui est ultra puissant.
Ensuite, on peut expliquer en quoi les nôtres vont être... Nos dragons vont être particuliers dans tel ou tel univers, selon le point de vue du roman ou du héros. Mais sinon, dès qu'on dit dragon, tout le monde sait de quoi on parle. Quoi. si on a de la pédagogie à faire, c'est parce qu'on va sortir des sentiers battus et éventuellement mettre en scène un dragon très positif ou alors un dragon, je ne sais pas, totalement onirique. Ou... mais sinon, c'est, on va... Et il y a finalement assez peu de créatures qui bénéficient de ce statut j'ai envie de dire, d'immédiateté. Quoi. Tout de suite, boum, le truc est clair, on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup.
Cafard.
Le Schtroumpf. Voilà, oui, il y a le Schtroumpf.
Et toi, avec tes deux continents, comment...
Avant, j'étais schizophrène, mais maintenant, nous allons mieux. j'ai parlé d'Adolphe, je crois. Moi, je te dis, j'en ai fait un humain, donc parce que j'ai baigné dedans quand j'étais môme, parce que, voilà, j'avais une... Ça s'appelait une tiba, c'est le nom cambodgien pour nounou, et j'avais le droit à des tas de trucs. Effectivement, on en voyait un peu partout, on en voyait dans le ciel, on... d'un seul coup on m'a dit que c'était mal parce que j'ai été déporté en Normandie je crois que je fais comme tout le monde, on a baigné dedans, ça a évolué et puis notre job illustrateur comme auteur c'est un peu de faire l'éponge, je crois qu'on si on n'est pas
le soir,
si
on est pas, tu viens de me traiter de pont là.
Si on n'est pas ouvert si on n'est pas ouvert au maximum et capable de capter des choses pour les ressortir à notre sauce. L'agriculture manque de bras, il faut arrêter, quoi. Il y a plein de choses à faire. On a besoin de ça, je pense, on a besoin de se nourrir des trucs. Et puis, c'est un peu comme la musique, il y a un nombre restreint de notes et chacun, en fonction de sa sensibilité, va en faire sa chose. Le dragon, c'est un peu ça. Il y a effectivement, c'est à la fois le sujet le plus casse-gueule qui soit, parce qu'il y en a eu des millions de faits, tu t'es plongé dans une bibliographie, je pense qu'il faut 2 ans pour l'établir au minimum, et encore grâce à l'ordinateur. Et en même temps, c'est quand même un truc magique. C'est extrêmement déjà vu, déjà fait, et puis je pense qu'on n'en est qu'au balbutiement, parce qu'on peut encore se lâcher. Le principe même du dragon, c'est que c'est le genre de créature qui va toujours repousser les limites et les frontières. Donc on continue à... Et c'est ce qui est excitant, je pense, dans ce truc-là.
Parce que ça remonte à tellement loin, en fait, c'est surtout ça. Ça remonte pratiquement aux origines de l'homme. Nous, on a étudié ça pour Temps de Dragon avec Sylvie, et on s'est aperçu qu'il y en avait chez les Amérindiens du Nord. On parle toujours de l'Amérique du Sud, donc du serpent Quetzalcoatl et tout ça, mais en fait, on a trouvé... Alors, évidemment, tous ces peuples ne parlent pas de dragon, même les Chinois, ils appellent ça Lung, en Indonésie, c'est les Naga, enfin, je ne sais pas, au Cambodge, comment c'est, ou au Vietnam, les Vietnamiens, c'est carrément fils du dragon, Vietnam. Le pays lui-même a la forme du dragon, hein, la queue en haut, la tête en bas. Bon.
Et... On connaît des gens comme ça.
Oui, je sais, j'aurais pas avec ces trois-là, j'aurais pas dû employer ces mots-là.
J'ai du mal à
te
dire.
Je te rappelle que tu peux marquer un point en disant Adolphe à un moment donné.
Oui, non, mais c'est bon. Ça.
Tu n'as pas 4 ans,
mais il faut travailler.
Oui, mais je suis pas assez joueur. Mais en fait, on s'est aperçu que ce mythe-là remontait vraiment aux origines de l'homme et qu'on le trouvait absolument de partout. Du moment qu'il y a un animal, enfin une espèce de créature absolument énorme qui représente les forces de la nature et la fertilité. Voilà. Et ça, on le trouve de partout dans tous les peuples, chez les aborigènes avec le serpent arc-en-ciel, le Wowi et tout ça. En Afrique, alors on a eu du mal à trouver des représentations, mais ça, on trouve chaud. Énormément de textes. Nous, on a bossé avec un ethnologue qui s'appelle Jean-Yves Loud, qui voyage beaucoup, et c'est un ami de Sylvie. Et il nous a expliqué ça de cette manière, il nous a dit... les peuples humains, de toute façon, sont tous faits de la même façon. En phase 2, ils ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire les mêmes tremblements de terre, les mêmes raz-de-marée, les mêmes volcans, la même façon de mourir. Et donc, la réponse de l'homme, elle est très simple. Il va réagir de la même façon, qu'il soit noir au fin fond du Zambèze, ou de la Rhodésie, ou en Amérique, à New York, quoi. Il réagit de la même façon. Après, moi, en tant que dessinateur, évidemment, il y a cette... ce truc qui est omnibile là, qui est venu des pré-raphaélites et qui est passé par les Américains, et le dragon s'est représenté comme ça, et puis c'est tout, on n'a pas à le représenter autrement. Il y a 2 ailes, il y a 4 pattes, il crache du feu, avec sa queue il détruit les châteaux. Bon, voilà, ça c'est le truc qu'on met maintenant. Et c'est vrai que souvent c'est le type dragon qu'on trouve dans les textes de la plupart des auteurs.
On a très très peu de dragons, et je regrette, indonésiens, avec des gros nez, des dents un peu bizarres, voilà, et qui représentent le bien ou le mal, et qui ne peuvent pas se tuer, parce que si le bien n'a plus le mal, c'est le yin et le yang, si le bien n'a plus le mal, ben, on ne peut plus savoir ce qu'est le bien. Voilà, quoi. C'est le barong et la sorcière Rangor en Indonésie.
C'est le Yu-Gi-Oh! En Corée. Ouais.
Voilà. Mais enfin, il connaît mieux que moi, hein, parce que je ne suis pas asiatique, mais... Mais bon, voilà. Donc, oui, bah, faut avouer, c'est
Bob Morane et Bombardier.
Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans les romans que j'ai pu lire, les dragons sont.
Ouais,
archétypaux. Voilà. Je
confirme, mes dragons n'ont pas un gros nez.
Mais maintenant qu'on y songe, les prochains, ça va chier. Ouais.
École belge du gros.
Si par exemple, si un occidental va mettre dans un roman un dragon asiatique, il va mettre un dragon chinois. Alors qu'en fait, le vrai dragon asiatique, c'est le Naga, c'est l'Indonésie, c'est l'Asie du Sud-Est, et c'est un dragon fluctuant même dans sa représentation, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec le bouddhisme, il est comme l'eau, il bouge sans arrêt. Mais pour un occidental, c'est vachement pratique le dragon chinois, parce qu'il est stéréotypé, il est tant des Kai Yin, tant des Kai Yang, il a des griffes d'aigle, il a des poils de poisson-chat, des écailles de carpe, etc., une tête de dromadaire ou de chameau, je ne sais plus, des cornes de cerf. Voilà. Donc là, ça, c'est vachement pratique pour nous, on est tellement cartésiens. Mais on a mis très longtemps, avec Sylvie, on a lu un bouquin du CNRS Édition sur le dragon indonésien. Allez, vas-y, prends les rames, hein, parce que c'est tellement en rapport avec la religion bouddhiste que ça change sans arrêt, quoi. Mais c'est présent partout. J'ai eu une fois une petite fille, vous avez un dessin qui est exposé sur l'Indonésie, que j'ai montré aux gens qui tournaient hier, et donc sur le Naga, et la petite fille, elle avait 4 ans, elle ne savait pas lire, et en fait, elle a fait le même chemin que toi, mais elle était occidentale, partie à 6 mois en Indonésie, et elle voit le dessin, elle fait, à sa mère, elle fait « Oh, un Naga !» Je la regarde, je lui dis, mais tu sais lire. Et sa mère m'explique que non, ils ont vécu 3 ans et demi à Bali et que depuis 6 mois, elle était revenue en France et il y avait un problème avec 4 ans, elle était en moyenne section. Et il y avait un problème parce que les enfants, pour eux, ça détruisait, ça mangeait les chevaliers, ça se battait et ça détruisait les châteaux. Et pour elle, elle avait, alors je ne sais pas comment on l'appelle, c'est Naga à 7 têtes qui sert de coussin à Bouddha pour prier. Et il le protège du soleil en même temps, il le protège des intrus. Et elle avait ça à la tête de son lit, et elle avait comment on appelle ça, ce qui pend du plafond là. Un mobile, voilà. Et un mobile, et c'est un dragon naga qui la protégeait le soir quand elle dormait, et qui devait lui amener la richesse, la beauté, voilà, la bonté et tout le reste. Donc c'est sûr, quand elle revient en Occident, en fait, à 4 ans ou 4 ans et demi, elle a la vision d'une asiatique. Et là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, où j'étais vachement fier en tant que dessinateur, c'est que cette petite fille a dit « Oh, un naga !» Donc, elle a reconnu un naga. Waouh ! Voilà, donc ça, c'est ma petite fierté. Mais voilà, ça y est, j'ai assez parlé.
Et vous avez lu des histoires de dragons ?
Ah, oula, oui. Depuis, oui. Alors, j'en avais pas lu avant, mais depuis.
Oui.
Oui,
on n'a pas eu des vies faciles. Ouais, non, si, qu'est-ce qu'on a lu ? Bilbo.
Ouais.
Enfin, Watson. Je m'en remets pas, ça. Dur.
Elric.
Bah oui.
Ah, ouais, ouais.
Il y en a plein dans Elric.
Non, mais on a vu plein de trucs, c'est qu'il faut chercher, mais on a eu plein, on a eu que ça.
Terre-mer.
Ouais, Terre-mer.
Ursula Le Guin.
Oui.
Shadowrun. Dragonlance et Terre de et Rêve de Dragon pour le jeu de rôle.
Mais moi, mes dragons, c'est vraiment les dragons TSR. Ils m'ont marqué.
Il y a quoi, ouais.
C'est avec ceux avec lesquels j'ai grandi.
Ceux d'Elmore et tout ça.
Ouais. Ouais.
Valérie Simon, ici présente, a aussi mis des dragons dans ses textes.
Ouais, c'est un truc très, très grand. Elmore, elle est dessinée en gigantesque. Ouais. Ça, et ensuite, avec la réduction, ça
a pété. Ça.
On ne peut pas oublier Anne McCaffrey qui a quand même. Ouais. Construit tout un univers avec plusieurs sortes et plusieurs tailles de dragons.
L'armée française avec ses dragons.
Ouais. Mm-hmm. Bah, il ne dit rien. Hein.
Fallait se les farcir. Hein.
Il s'appelle pas
Robin Hobb, qui a toutes sortes de formes de dragons, que ce soit des dragons de pierre qu'on peut réveiller avec certains sortilèges, ou des dragons issus de serpents de mer qui peu à peu grandissent pour devenir des dragons. On ne peut pas non plus oublier George R. R. Martin et le trône de fer où les dragons sont quand même assez présents.
Jackie Cougnard, on sait le cri de guerre tous les samedis soirs quand il va en boîte, comme un combat. Dragon.
Quelqu'un vient d'imiter ma voix pour dire une connerie.
Ah oui. Un ventriloque se cache dans cette salle.
Qu'il se démarre.
Harry Potter. Oh, Harry Potter aussi.
Harry Potter.
Ah ouais, c'est vrai.
Un dragon, Harry Potter.
Ah là là, mais
un
j'ai
petit.
Pas lu. Enfin, je l'ai lu aussi.
Il y en a tout.
Ça paraît que c'est dommage.
C'est normal, c'est une utilisation d'artifice.
Mais il faut du temps.
Oui, il faut du temps pour y
arriver. On l'oublie, mais il faut. On en manque. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme interro surprise?
Là, je pense qu'il
on a fait,
on a fait un petit peu le tour. C'est maintenant, c'est au tour. C'est votre tour.
Oui, les questions, les questions.
Vous savez, le thème Quête et Dragon, là, il y a eu un concours de nouvelles qui est avec le festival et les gens qui organisaient le festival, l'association Cyberrune, me disaient qu'en fait, donc, il y avait un public à moins de 17 ans, enfin, pour le concours, participants moins de 17 ans et puis adultes plus 17 ans. Ils me disaient qu'en fait, le thème Quête et Dragon avait particulièrement intéressé les primaires. Ensuite, ados 10-15 ans, c'était tombé complètement à plat.
Ouais, mais ils sont dans le. En ce moment, les ados, ils sont dans le vampire qui sont dans la bouche et qui draguent la fille.
C'est assez gore, le dragon.
Il faut leur dire la vérité.
C'est ça. Après, bon, 16-17, ça revenait. Et puis, à adultes, là, c'était revenu.
On passe plus si on slime les dents. Aussi. Ouais.
C'était amusant, ce creux de.
Un vampire qui bouffe que de la betterave.
Non, mais je pense que vers 12-16 ans, c'est le moment où les ados. Plus centrés sur eux-mêmes, et la dernière chose dont ils ont envie, c'est qu'on leur tende le miroir dont on parlait tout à l'heure.
En même temps, sérieux, ouais, moi, mon fils s'amène en disant « Ouais, j'ai vu une fille, elle a un peu les dents bizarres et tout, mais je l'aime grave trop. » Tout bib. Soyons clairs.
Il faut qu'elle se les fasse limer.
Chérie, ça a été écrit par un mormon, ça peut pas être des vampires.
Il aime tellement les dragons qu'il a un fils qui s'appelle Eric. Hein, ouais. Donc,
Ouais, ouais.
Parce que il s'appelait Eric au départ et l'officier d'état civil.
Non, j'y ai pas bu, Eric.
Alors, je peux vous faire l'explication historique. C'est le « et ». Accent aigu est apparu quand le L est tombé. Mais Elric, c'était avant Eric en Bretagne. Non. Ouais. Michael Moorcock, qui n'est pas la moitié d'un blaireau, l'a appelé comme ça parce que ça remonte à Aldric. Mais là, il devient chien. Mais j'ai l'explication, parce qu'à l'époque, il fallait encore montrer l'âne d'écueil, que ça existait vraiment, et pas uniquement dans un bouquin de tordu avec un type avec des cheveux blancs et des yeux rouges. Mais si, il faut qu'il s'appelle comme ça parce que.
C'était une super épée. D'autres questions, d'autres interventions?
Un petit café, des croissants,
un suppôt et au lit.
Ah non.
Mais c'est marrant parce qu'on dit que c'est un truc de garçon, et en fait je constate qu'il n'y a pratiquement que des filles. Enfin, il y a quand même deux,
désolé,
trois
les garçons. Hein.
Pas grave. Mais pourquoi ce serait un
truc? Habillez-vous plus viril la prochaine fois.
C'est ce qu'on me dit. Alors, après,
je vous rappelle
après,
qu'aujourd'hui, c'est la première des 364 journées de l'homme.
Après, comment ça se passe? Après, juste comment ça se passe au niveau des lecteurs, des romans, ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai affaire à des enfants, puisque je suis illustrateur pour enfants. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est des enfants avec leur mère. Et la plupart du temps, c'est... oui, je suis désolé, j'ai qu'une fille. Alors, vous savez, Dragon, je suis obligé de leur dire, oui, mais le bouquin, c'est un livre de filles, c'est écrit par Sylvie Chausse. Moi, j'y suis pour rien.
Voilà. Mais il y a énormément d'auteurs
de
science-fiction ou de fantasy qui ont écrit des histoires de dragons. La majorité sont des femmes.
Tu veux dire qu'il faut qu'on consulte?
Je pense.
Non, de toute façon, la plupart des lecteurs sont des lectrices. Donc déjà...
Le coming out qu'on vient de faire, là. Oh, j'étais pas venu pour ça. Hein. Non. Un café à l'addition?
Oui.
Si vous deviez choisir qu'un dragon dans toute l'histoire du dragon, celui qui vous a inspiré, qui vous a le plus marqué, qui...
Smaug.
Smoke, ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu comme tu dis, c'est un peu archétypal, quoi.
Moi, c'est le dragon du Georges, donc le dragon anglais.
Ouais, ben, le bois dormant, celui de Disney.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais,
ouais, c'est celui-là.
Mais finalement, on est quand même, bien ce qu'il dit, on est quand même vraiment occidental, hein, parce qu'on a parlé que d'un type, voilà, c'est Smaug, la Belle au bois dormant, le dragon anglais, voilà.
C'est le, ouais, parce que si tu t'en reviens, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est ancré, je pense que c'est vraiment imprimé dans l'enfance. Là, une première rencontre avec la créature, et c'est marquant. C'est
bon,
il y a plusieurs générations qui ont été marquées par ce dragon de la Belle au bois dormant, qui est exceptionnel.
Et puis il y a celui d'Anne-Mac, tous ceux d'Anne-Mac Caffrey aussi.
Oui, mais c'est assez rare que petit, tu lises Anne-Mac Caffrey à 4 ans.
Ça, c'est vrai.
Mais en faisant l'illustration, moi, je me suis aperçu qu'il y avait... en Asie, c'est essentiellement de longs vers avec des pattes qui marchent.
Des
longs mais en fait, si on prend, on les retrouve dans les premiers dragons, c'est l'Antiquité, c'est l'époque primitive. Et c'est exactement la même chose. Je veux dire, Python, Ladon, c'est des grands serpents qui avalent des villes, des armées entières. Le serpent arc-en-ciel pour les Amérindiens, le Quetzalcoatl pour l'Amérique du Sud, le Yemish pour les Indiens Patagons, etc. Donc,
Puis
on arrive au Moyen-Âge, c'est l'apparition des pattes. L'apparition des ailes ensuite, puis l'apparition des deux autres pattes à l'avant.
Les dragons celtiques sont issus des serpents. Et c'est les marques de sagesse et de connaissance qui ont été transformées par la chrétienté en mâles pour justement aller à l'encontre des croyances des îles britanniques et de la Bretagne, etc., qui avaient gardé ces croyances en ces serpents dragons gardiens de la connaissance et de la sagesse. Il fallait absolument c'était le mal.
Ça commence à la Bible, mais ce qui est rigolo, c'est de voir comme ça toute cette filiation. C'est pour ça, quand tu dis que ça touche tout le monde immédiatement, oui, parce que je pense que ça fait partie des grands thèmes d'humanité, quoi. Alors on met ça dans une ils vont me tuer, mais dans une sous-littérature, mais en fait ça fait partie des
d'accord.
grands thèmes. Ça fait vraiment partie des grands thèmes. Bon, voilà. Mais la sous-littérature, ça peut être super bien écrit, voire même mieux que...
Non, mais ça rapporte. Chose, hein.
Alors là...
Non, juste ça, c'est là, il était sympa.
C'est toi qui dois le dire. Je t'ai piqué tes répliques.
Mais je me méfie parce que s'ils sont franchement...
Pourquoi sous-littérature?
Non, mais...
Mais parce que c'est comme ça que c'est...
C'est comme ça que c'est appelé, quoi. Voilà. Mais c'est pas les seuls, hein. Les romans policiers, c'est à peu près pareil. C'est, voilà, quoi. C'est quand même terrifiant, mais c'est
alors,
comme ça.
Alors, le mot plus joli, c'est littérature de genre.
Bon, d'accord. Okay. Mais c'est, pour moi, le vocable change rien. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui mettent les choses en dessous, et ce qui est ridicule.
Voilà. C'est pour ça qu'on va leur présenter le dragon.
Quelqu'un aurait un mot de la fin?
Tiste.
À part dans le dragon, tout est bon. Voilà.
Benito.
Benito.
Alors, je vous remercie d'être venu nous écouter.
Venu voir nous. Venez à cette stade.